RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Salut à tous, c'est parti pour Motors comme tous les dimanches jusqu'à 14h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC, bon appétit si vous passez à table. Ça n'est pas encore le cas de Jean-Luc Roy qui est à mes côtés.
Salut
encore,
mais on est à table puisqu'on a un beau programme effectivement aujourd'hui. On a un menu en tout cas alléchant.
Assez sympathique effectivement, avec à la une le rallye WRC du Portugal, 7ème manche du championnat du monde avant la Power Stage qui se déroulera dans quelques minutes. L'ultime spécial, c'est Ott Tanak qui est en tête de ce rallye. On sera dans quelques minutes avec Guy Fréclin, vice-champion du monde des rallyes en 81 et patron du team Citroën pendant la grande époque des titres de Sébastien Loeb pour nous éclairer justement sur cette 7ème manche du championnat du monde. 13h25, le MotoGP avec le Grand Prix aujourd'hui au Mugello en Italie, et encore une belle séance de qualif pour le Français Fabio Quartararo qui s'élancera en deuxième position sur la grille de départ. C'est l'Espagnol Marc Marquez qui s'est emparé de la pole hier. Et puis à 13h40, Radio Paddock avec notamment les infos de la semaine, les toutes dernières infos à 3 semaines surtout du Grand Prix de France de Formule 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez gagner vos places pour ce Grand Prix du Castellet. Votre passe pour les 3 jours, c'est à gagner maintenant sur RMC. Vous envoyez sans plus attendre F1 au 7-32-16. F1 au 7-32-16. C'est parti pour Motors. Et avant de partir au rallye, Jean-Luc, je voulais quand même qu'on revienne, je sais qu'on en parlera tout à l'heure dans Radio Paddock, qu'on revienne quand même sur l'événement du week-end dernier, la victoire de Simon Pagenaud aux 500 miles d'Indianapolis, le 4e français de l'histoire, le premier depuis 99 ans à réaliser pareille performance. Je sais pas si on en a assez parlé, en tout cas moi je voulais vraiment lui faire honneur aujourd'hui parce que c'est absolument énorme ce qu'il a fait, et en plus c'était une course absolument fabuleuse.
Et écoute, tu as parfaitement raison, je pense qu'effectivement malheureusement en France les 500 miles d'Indianapolis et l'IndyCar d'une manière générale n'ont pas la résonance qu'elle mérite et qu'elle a dans d'autres pays. Pourtant, on a deux représentants français. Tu viens d'en citer un, évidemment, Simon Pagenaud, qui a atteint une partie de son Graal. Enfin, on dit toujours que le Graal, on ne l'atteint qu'une fois. Il avait donc été champion IndyCar en 2016. Il avait intégré le team Penske, un des teams les plus titrés, les plus importants. C'est la 18e victoire de cette fameuse équipe du capitaine Roger Penske, qui est un personnage extrêmement impressionnant, qui est venu une saison en Formule 1. Il faut le rappeler, peu de gens le savent aussi, en 1977. Ça n'avait pas été conclu. En tout cas, Simon, le Poitevin de Montmorillon, âgé de 35 ans, est parvenu à décrocher et d'une manière très impressionnante, comme tu l'as dit, parce que il a mené 116 tours de cette épreuve. Il avait signé la pole. Sur 200, exactement. Il avait signé la pole. Il a été malin parce que on a compris que comme il ravitaillait un petit peu plus tôt que les autres, parce qu'effectivement, ça c'est toute la stratégie d'Indianapolis, il ravitaillait au bout du 32e tour alors que certains attendaient le 34e, voire le 35e. Donc on savait que, évidemment, à l'emballage final, il allait se passer quelque chose. Et puis, il a donc choisi intelligemment de laisser remonter notamment Alexander Rossi, le jeune pilote américain qu'il avait déjà emporté à Indianapolis. Et puis, il y avait Newgarden, son équipier de Penske, qui était dans le coup également. Et puis, en fait, il a été servi par la malchance de Sébastien Bourdais, qui s'est accroché, donc pas de sa faute, avec Rahal, donc à neutralisation et même drapeau rouge, ce qui lui a permis d'avoir l'autonomie nécessaire. Et là, la bataille des derniers tours, si vous ne l'avez pas vu et si vous la trouvez sur Internet, c'est vraiment extraordinaire.
Serpent de mer à la fin, c'était génial. Pour justement faire échapper le concurrent derrière à l'aspiration, c'est extraordinaire.
Il y a qu'Indy qu'on peut voir ça. Et puis en plus, Simon, là, il maîtrisait son affaire, sa machine était parfaitement réglée. Enfin, écoute, c'est une joie immense pour lui. Ouais. Et puis comme aux États-Unis, on n'a pas peur de dire ce qu'on gagne. Il a gagné un peu plus de 2 600 000 $ à cette occasion. Bah écoute, on en est absolument ravi pour lui. On sait que l'IndyCar, on en parlera tout à l'heure avec Christophe, se déplace à Détroit ce week-end. Il y a deux épreuves d'ailleurs qui suivent. On parlera de la première et la deuxième qui va se dérouler tout à l'heure.
Mais bon, c'est juste pour conclure là-dessus, c'est quand même juste les 500 miles d'Indianapolis dans le monde du sport auto, des sports méca en général, l'une des trois courses les plus importantes avec le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du monde.
Et tu sais, on rappelle qu'effectivement Fernando Alonso essayait de se qualifier, n'est même pas parvenu à se qualifier cette année. C'est pas de sa faute, on ne va pas du tout le remettre en cause, le talent du double champion du monde, mais son équipe McLaren a été incapable de lui fournir la machine nécessaire. Il a été éliminé assez piteusement, il faut bien le dire, en plus par un rookie, quelqu'un dont c'était la première participation, donc il n'était pas sur la grille de départ. Il reviendra pour essayer de décrocher effectivement le fameux triptyque, puisqu'il est déjà vainqueur du Grand Prix de Monaco, vainqueur des 24 heures du Mans et même champion du monde de Formule 1. Donc il lui manque encore cette perle à sa magnifique couronne.
Allez, on reparle. On parlera tout à l'heure de l'IndyCar, mais je voulais quand même qu'on rende un hommage au Français Simon Pagenaud, dont vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. C'est le 4e Français de l'histoire à réussir pareille performance, et le premier donc depuis Chevrolet en 1920. Tout de suite, le rallye.
RMC Motors. 90, 150 mètres, droite 120. Le briefing.
Ah oui, dans 7 minutes, ça sera l'heure de la Power Stage, Jean-Luc. peut-elle changer des choses? Parce que là, 16 secondes d'écart entre Aude Tanak et Thierry Neuville, hein, deuxième à l'issue de la 17e spéciale. Est-ce qu'on a le classement figé ou pas?
Et écoute, non, par définition, non. On a vu des pilotes commettre des erreurs. Alors 16 secondes, c'est toujours beaucoup. En général, cette power stage, elle est assez courte. Hein. Elle permet difficilement de creuser des écarts. Mais tu l'as dit, les écarts ont été réduits puisqu'à l'issue de la deuxième journée, l'écart entre Aude Tanak et Chris Meek, son équipier chez Toyota, était de 4 secondes 3. Et Neuville, qui est donc remonté deuxième, était à 9 secondes 2. Quant à Sébastien Ogier, il n'était qu'à 21 secondes. Donc c'est tout l'art du rallye. Puis là, je crois plus que jamais cette année, parce que c'est pas une bataille entre deux hommes, ils sont bien trois.
C'est vrai que cette année, il y a un suspense absolument extraordinaire. Pour en parler, pour aller plus loin, ton invité, Jean-Luc, c'est Guy Fréclin, qui a été vice-champion du monde des rallyes en 1981, patron du Team Citroën durant la grande époque de Sébastien Loeb. Bonjour Guy Fréclin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct dans Motors. Je vous passe Jean-Luc.
Salut Guy, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que je te distrais dans tes occupations, mais je sais que tu suis le rallye de très près, tu peux pas t'en empêcher. Alors écoute, on va tout de suite parler justement de cette bataille au sommet entre les trois hommes. Écoute, c'est magnifique, hein, jusque là.
Superbe bagarre.
Ah ouais. Alors justement, ton sentiment là-dessus, en plus avec trois marques différentes, enfin, c'est pas une équipe qui domine là, on peut le dire.
Non, c'est vrai. Même si les Toyota ont quand même relativement dominé, puisque à un moment donné, elles étaient trois en tête,
oui.
Elles ont eu leur lot de malheur aussi. Les Hyundai ont eu, bah, d'ailleurs, Sébastien Loeb et Sordon ont eu leurs problèmes aussi de moteur qui les a bien retardés. Tout le monde a eu un peu son lot de malheur. C'est un rallye qui est remonté dans le Nord. Et moi, j'ai connu ce rallye à l'époque, la première fois que je l'ai fait, c'est en 1980, donc il y a 39 ans. Il y a quelques années, c'était hier.
Et tu te battais pour le titre de champion du monde à l'époque, hein. Il faut le rappeler.
C'est un rallye très compliqué.
Ouais, ouais.
Très compliqué parce que très dur, avec des parties où il y a des pierres qui sont sur la route, et puis il y en a d'autres qui sont des pierres enchâssées, comme par exemple Arganil. À l'époque, Arganil faisait 40 km, là elle ne fait plus que 14 km, c'était spécial d'Arganil, mais c'est un endroit un peu montagneux où à l'époque on était au mois de mars avec du brouillard, de la pluie, enfin bref, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, sur le sec, probablement que les voitures souffrent plus encore à cette époque-ci avec la chaleur qu'il fait, avec ces pierres enchâssées, et on a vu un certain nombre de voitures qui ont eu des problèmes d'amortisseurs, de train avant, enfin bref, ça a été compliqué.
Mais oui, parce que on se bat à coup de dixième de seconde, hein. Maintenant c'est même plus de seconde en championnat du monde des rallyes, et comme tu le dis, il faut quand même ménager sa mécanique parce que les temps d'assistance sont limités. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs globalement justement de l'organisation du championnat du monde des rallyes? C'est plutôt bien fait?
Globalement, on peut pas dire que le championnat du monde des rallyes ait beaucoup évolué depuis quelques années, mais on ne peut que se féliciter de l'organisation qui est en place. Les organisateurs en place sont bien sûr choisis par la FIA, qui est intransigeante sur la qualité de l'organisation, et ça, on ne peut pas leur enlever. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on évolue. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on évolue à nouveau vers des rallyes comme un peu, je suis un peu nostalgique des rallyes de l'époque, avec des épreuves de nuit, avec des spéciales plus longues.
Ouais.
Enfin bref, voilà, on est demandeur de revenir un petit peu dans ce domaine-là. Et puis, j'ai cru comprendre qu'on allait retourner en Afrique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que le continent africain, un rallye africain, le Kenya par exemple, c'était une épreuve qui faisait 6000 km, on partait pour des spéciales de 800 km.
Un genre de Dakar, hein, finalement.
Les pneus, l'essence en spécial, enfin, je veux dire, c'était du vrai, enfin, je vais pas dire que c'était du vrai rallye. C'était autre chose, c'était de l'endurance en rallye. Alors qu'aujourd'hui, on est en F1 en rallye, quoi. Voilà.
Bah voilà, on se battait.
Pour donner une image
mais tu as raison.
De ce qu'est le rallye aujourd'hui par rapport à l'époque.
On ne se battait pas à coup de dixièmes de seconde, ni même de seconde. C'était des minutes, voire même des dizaines de minutes,
hein. Bien sûr, quand on ravitaille en pneus et en essence dans une épreuve spéciale de 800 km, ça peut pas être au dixième.
Non, ça c'est clair. Alors tu parlais justement du calendrier, tu as raison, il y avait l'East African Safari dont tu viens de parler, il y avait même le rallye du Bandama, hein, c'était encore autre
bien
chose
sûr,
à l'époque.
Oui, bien sûr, le Côte d'Ivoire, oui, évidemment.
Et puis le rallye du Maroc, tu as bien connu ça aussi.
Bien sûr, ouais.
C'était quelque chose. On en revient à notre histoire. Alors Ogier, avant cette épreuve, hein, on fera les comptes après, 122 points, il avait creusé un petit écart intelligent là finalement lors du dernier de la dernière épreuve qui était nouvelle, hein, celle du Chili, Ott Tanak oui. qui est actuellement en tête, 112 et Thierry Neuville 110. Bah on peut dire que là ils ont fait le trou parce que Mick est à 56, Elfyn Van 55 et puis on n'oubliera pas Sébastien Loeb qui avec les quelques participations est quand même 6e pour le moment, hein, du championnat du monde. Par parenthèse, oui, quelle analyse tu as justement sur le pigiste de luxe, et c'est pas du tout méprisant, au contraire, hein, qu'est Sébastien, qui doit faire 6 épreuves du championnat, tu penses qu'il en fera peut-être plus finalement, ou comment ça va se jouer cette affaire?
En fait, il a prévu en faire 6, ils ont prévu en faire 6 avec ouais. Hyundai, on se rend compte que quand on ne fait que 6 épreuves spéciales, quand on a, il a eu un souci en Corse, il a un souci ici, dès que tu as un petit souci et que tu fais 6 épreuves, tu ne retiens que les problèmes.
Bien sûr.
Donc là, il a un
bien
problème sûr. Moteur, ce qui fait que le lendemain, il repart en tête, il ouvre et il balaye pour les autres. Enfin bref, dès qu'on a un problème sur un rallye comme ça, surtout dans la première étape, c'est très compliqué et c'est impossible de revenir, quoi. Alors, il est bien évident que ça ne change rien sur les hommes de tête. Il y a effectivement, trois marques et trois pilotes qui se battent au plus haut niveau, Tanak, Neuville et Ogier. Et on se rend compte que, une fois de plus, Ogier fait une course intelligente. Il a vu qu'il pouvait pas faire mieux. Ben, depuis ce matin, il lève le pied, il laisse les autres se battre en espérant qu'il y en a un des trois qui ne voit pas l'arrivée. Quoi, voilà.
Et que ce soit pas lui, évidemment. Alors, justement.
Et en plus, il préserve ses pneus pour la Power Stage. Donc voilà.
Oui, ben, totalement. On peut parler de cette équipe Citroën, donc, qui évidemment, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont intégré cette année. Est-ce qu'on peut dire retour à la maison? Comment tu le vois, toi, après ces années, effectivement, Volkswagen, qui ont été couronnées de succès, ces années Ford qui étaient audacieuses, hein, parce que c'était quand même une petite équipe, et ça l'est toujours, il faut le rappeler, puisque Ford, maintenant qu'on n'a plus une paire de magiciens à l'intérieur, on voit bien qu'ils ont un petit peu de mal, hein, à se battre pour la victoire.
Ben bien sûr, ouais. Évidemment, je crois que... Enfin, il y a eu un éclat qui a été fait, c'est Evans, au Tour de Corse,
oui.
qui était en tête du Tour de Corse, qui a été étonnant. Et la Ford et Evans ont été étonnants au Tour de Corse. Ce qu'ils ont fait, c'est fantastique, parce qu'une petite équipe comme ça, comme tu le dis, et Ogier a eu l'intelligence de mener ses courses comme il le fallait aussi dans cette équipe-là, et ils ont été champions du monde, et ça, c'est fantastique. Avec une petite équipe comme ça, il faut le souligner.
Ben
c'est
oui.
Incontestable.
Mais on rappelle justement le classement, tu le disais, du Tour de Corse, c'est Neuville qui l'avait emporté avec la Hyundai, à 40 secondes, ce qui est aujourd'hui un très gros écart, hein. On trouvait Ogier qui a géré, comme tu dis, et puis Elfyn Van, qui était troisième avec sa Ford, justement, pour souligner
le travail. Oui, mais il était en tête.
Spéciale. Absolument. Alors, cette équipe Citroën, là aussi, comment tu t'expliques, semble-t-il, les problèmes de mise au point, de développement, je sais pas ce qu'on peut utiliser comme mot, puisque apparemment, la Citroën n'est pas, comme tu le dis, hein, tout à fait aussi performante que les Toyota et les Hyundai. C'est paradoxal, non?
Alors que la Hyundai, je ne sais pas, mais il semble, parce que quand il y a trois pilotes qui sont devant avec une voiture, ça veut dire que c'est la voiture qui est au-delà des autres.
Oui.
Quand il y a
tu parles des
pilotes,
Toyota, là, oui.
Ça peut être
oui.
un pilote qui fait un peu la différence. Mais quand il y en a trois, ça commence à montrer qu'il y a une supériorité de la voiture par rapport aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, la Toyota a un avantage, je l'avais souligné d'ailleurs en début d'année,
oui.
Un avantage incontestable en aérodynamique. C'est un aspirateur, cette voiture. Quand on la voit passer sur la Terre, elle soulève des nuages de poussière, et ça, c'est dû à la dépression qu'il y a par l'aéro, et il y a une aéro extraordinaire. Ils ont eu l'intelligence, je pense, de se dire que l'aéro était beaucoup plus importante en rallye, l'appui en tout cas, que la traînée, parce que les vitesses qu'on atteint quand on atteint 180 en rallye, c'est quelques fois dans la spéciale.
Oui.
On est plus souvent entre 60 et 160, où là, la traînée... n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on, par contre, l'appui aérodynamique est très important parce que ça donne une assise à la voiture qui est incontestablement au-dessus de la moyenne.
Allez, une petite question encore plus générale. Je profite de t'avoir sur l'antenne de RMC dans Motor. C'est toujours un plaisir, Guy Fréclin. Si, pour te faire parler de l'éventuelle hybridation. Alors, c'est un bruit qui a couru plus que couru. Enfin, on sait que du côté de la FIA, il y a une certaine volonté de mettre un peu d'hybridation partout. Qu'est-ce que tu en penses pour les rallyes?
Alors, personnellement, j'avais fait à l'époque où j'étais directeur sportif et l'avant-dernière année, même c'était en 2006 et 2007, j'avais fait des réunions avec la FIA, la FFSA et un garçon qui était le responsable du Panda et qui était un organisme écologique avec lequel on souhaitait travailler. Nos ingénieurs avaient regardé les solutions et moi, ce que j'avais proposé déjà à l'époque, c'était une hybride avec un moteur électrique sur toutes les passer en électrique sur toutes les liaisons de façon à ne pas avoir de pollution sonore en ville, sur la route, et être en moteur
thermique,
atmo, turbo, dans les spéciales.
D'accord.
Ça fait 12 ans que j'avais proposé ça.
Bah oui.
Donc je pense qu'on a beaucoup patiné depuis et je trouve ça dommage.
Oui, c'est clair. Bon, le sujet revient. Écoute, peut-être qu'on va y arriver. Enfin, on sait que.
J'espère. Parce que
on sait.
Il faut faire quelque chose.
C'est clair. Alors, on est pile à la, on sera à la fin de ce rallye à la moitié de la saison. On est dans la saison européenne, on va dire, puisqu'après le Portugal, on va voir l'Italie, la Finlande, l'Allemagne. Bon, petite incursion en Turquie, la Grande-Bretagne, l'Espagne. On finira en Australie. Impossible de faire un pronostic, hein, évidemment, à ce stade.
Oh, c'est très compliqué.
Bah oui.
C'est beaucoup trop tôt. Les positions sont beaucoup trop serrées aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, c'est bien le charme justement de ce championnat actuellement, avec ces marques qui sont en pleine bagarre, et c'est le côté fantastique de ce championnat cette année.
Bah écoute, c'est absolument génial. Tu vois, je sais que vous parlez souvent avec Seb Loeb. Que t'a-t-il dit là justement? Quel est son sentiment? Enfin, en cours d'épreuve, c'est un peu compliqué, mais
alors il est bien évident qu'il est très déçu par sa panne moteur. Malheureusement, il n'est pas le seul, et il y a eu Dani Sordo aussi. Ils ont eu la chance que ça tombe sur les deux qui ne font pas un championnat complet. Heureusement que c'est pas arrivé à Neuville. Sinon, ça aurait été catastrophique pour eux, compte tenu de sa sortie de route du dernier rallye. Et il faut absolument qu'il termine ce rallye s'il veut rester dans le match pour le championnat.
Bah oui, c'est clair. Mais de toute façon, il faut qu'effectivement il y ait un travail d'équipe. Et on avait bien compris dès le départ, le positionnement était clair, que l'atout de Seb, c'était Seb Loeb, c'était de venir enlever des points aux autres. Hein, voilà, dans la mesure du possible, et justement de venir perturber le jeu des. Alors, on sentait bien que ça allait être ce trio-là qui allait se battre. Allez, hein, on avait une petite idée quand même.
Bien sûr, évidemment. Mais en fait, le Hyundai a eu l'intelligence de prendre des garçons et puis de les mixer de façon à ce qu'ils aient qu'ils ne soient pas trop bien placés au championnat pour être relativement loin sur la terre, et puis que les autres balaient pour eux dans la première étape, et puis essayer de marquer le maximum de points constructeurs. En fait, Hyundai cherche aussi le championnat constructeur.
Bien sûr. Il y a pas que
et avant tout, à mon avis, même avant le vide, je pense.
Bah oui, on le sait, pour les constructeurs, c'est même le plus important.
On sent bien que Hyundai cherche le championnat constructeur.
Bah tiens, évidemment, c'est extrêmement important pour
et
la marque coréenne.
Citroën, l'inverse, cherche le championnat pilote, puisque dès maintenant, je pense qu'avec les problèmes de l'API aujourd'hui encore, mon avis, ça va devenir compliqué pour le championnat constructeur pour Citroën.
Ah ben c'est clair.
Il y a que Ogier, à mon avis, qui peut décrocher le titre pilote.
Ben c'est clair, tu as parfaitement raison. L'API, il était 8e au championnat avec 34 points seulement avant cette épreuve. Ben écoute, génial.
Il a fait beaucoup de fautes.
Ben il est encore un peu jeune et peut-être un peu tendre. On va dire un peu tendre.
Qu'il apprenne.
Eh ben c'est la vie.
Un peu chien fou encore. Voilà.
Ben ça fait partie parti. Écoute, ça anime un peu le spécial hein, de temps en temps.
Tout à fait.
Je te remercie beaucoup, Guy Fréclin, d'avoir été avec nous dans Motors aujourd'hui. C'était un vrai régal.
Tu as eu raison de souligner la victoire de Pagenaud. C'est fantastique. Voilà, je voulais le dire aussi.
Oui. Bah écoute, je sais que tu suis tout. Hein. On est picosé. Je sais que tu vas même regarder le MotoGP. Allez, on y va.
Ouais. Merci, Guy Fréclin, d'avoir été en direct sur RMC. Très bonne journée à vous. Évidemment, on va d'abord suivre la fin du rallye. Hein, puisque oui. c'est en ce moment même la Power Stage. Les pilotes sont justement en train de rouler.
On en saura plus avec Christophe Plenet en fin d'émission.
Voilà, exactement. Ouais. Dans un instant, le MotoGP, justement, notre émission moteur jusqu'à 14h avec donc une deuxième place sur la grille de départ pour Fabio Quartararo, le français. Cette fois-ci, va-t-il réussir à tenir un petit peu plus qu'il ne l'avait fait lors du Grand Prix de France il y a quelques semaines, Jean-Luc?
Il a les moyens de le faire. Il est impressionnant parce qu'il commet très très peu d'erreurs. Il a fallu que vraiment Marquez se défonce. Il n'y a pas d'autre mot pour décrocher la pole. Je crois que Fabio, il a vraiment trouvé l'engin qui lui convient.
On en parle dans un instant. On sera en direct avec Jean-Claude Augrel, justement spécialiste de la question du MotoGP, pour éclairer notre lanterne et peut-être faire quelques petits pronostics en vue de ce Grand Prix de France. À tout de suite sur AMC.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean-Luc Roy.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Motors. Il est 13h29. Motors, c'est comme tous les dimanches évidemment jusqu'à 14h avec The King, Jean-Luc Roy qui est toujours là.
Yes sir.
Ça va?
Bah voilà, bien.
C'est plus de la tête là entre
c'est
la MotoGP, Power Stage en ce moment hein, sur le rallye du Portugal. C'est la 20e et dernière spéciale qui pourrait, pourquoi pas, on le rappelle, changer le cours des choses. Sait-on jamais.
Totalement.
16 secondes d'écart entre Tanak et Thierry Neuville. Sébastien Ogier est un peu plus loin, 58 secondes
réserve.
En 4e position. Enfin, quand je regardais les écarts entre le 4e et le 5e, alors là par contre, bah, ça rigole pas là, c'est 4 minutes hein.
Derrière on n'est pas tout à fait dans la même catégorie.
Voilà, exactement. Et puis donc à partir de 14h, juste après Radio Paddock, hein, Christophe Plenet nous rejoindra dans quelques minutes justement pour parler notamment du Grand Prix de France et notamment de ces places hein, que vous pouvez gagner pour le prochain Grand Prix du Castellet. Jean-Luc, je te laisse nous rappeler les dates de
Grand Prix. Ça vaudra le coup. Bah, c'est 21, 22, 23 juin. Ce sera évidemment une épreuve extrêmement importante. C'est la deuxième épreuve du retour, on va dire, de la Formule 1 en France sur le magnifique circuit Paul Ricard, et on a beaucoup travaillé tous les aspects. L'accès, on en a déjà parlé effectivement, mais on parlera aussi des divertissements tout à l'heure avec le responsable des divertissements, Ludovic Arnaud. Bref, le Grand Prix de France, ça va être la grande fête de la Formule 1 et du sport mécanique.
Tu as donné 3 dates, Jean-Luc, et ben ça tombe bien, on vous offre votre passe de 3 jours.
Et ben voilà.
Vous le gagnez maintenant. Pour remporter vos billets, vous envoyez sans plus attendre F1 au 732-16. F1 au 732-16.
RMC Motors. Tour de chauffe.
Et c'est aujourd'hui le Grand Prix du Mugello dans une demi-heure. Le MotoGP, on a déjà des résultats, hein, des catégories inférieures, Jean-Luc.
Moto 2 et Moto 3, mais je sais que Christophe va nous les donner tout à l'heure.
D'accord. Bah,
je peux juste vous dire quand même qu'en Moto 2, j'ai suivi jusqu'au dernier tour, juste avant l'émission, Alex Marquez était en tête. A priori, il aurait pu aligner une deuxième victoire d'affilée après celle du Mans. Et puis, je peux te dire que du côté du Moto 3, eh bien, normalement, c'est Tony Arbolino qui a remporté sa première victoire après être parti de la pole, mais ça a été une bagarre de chiffonnier comme d'habitude en Moto 3.
Et je te confirme la victoire d'Alex Marquez, effectivement, en Moto 2. Mais on va parler du MotoGP parce que tout à l'heure sur le circuit du Mugello à 14h, c'est un Français qui s'élancera en deuxième position sur la grille de départ, un certain Fabio Quartararo qui sera non loin dans les basques de Marc Marquez, l'Espagnol.
Écoute, c'est fabuleux ce qu'a fait Fabio, on va en parler avec Jean-Claude Augrel dans un instant, mais je crois que jusqu'à maintenant, j'ose parler de sans faute. Il a commis quelques petites erreurs, mais ce ne sont pas des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. La première, lors du premier Grand Prix en nocturne au Qatar, on s'en souvient, oui, il a calé sur la grille, là aussi il n'a pas cherché d'excuses, et moi j'adore ça, les jeunes pilotes, à la manière d'un Charles Leclerc qui ne cherche pas à trouver des raisons techniques ou autres, j'ai eu un problème d'embrayage, enfin on connaît des très grands champions, multiples champions du monde qui s'abritent toujours derrière de prétendues raisons techniques, bah non, là on y va carrément, et puis après, bah, il apprend très 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 bien, il a déjà signé, on le sait, sa première pole en battant le record de précocité établi par Marc Marquez, puisque effectivement ça c'était à Jerez de la Frontera, c'était en Espagne. Écoute, au niveau de la victoire, ça chauffe. Je préfère même pas en parler parce qu'on va suivre ça juste après Motors, mais c'est pour bientôt, c'est clair.
Allez, justement notre invité, il est avec nous en direct. Bonjour Jean-Claude Augrel.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous dans Motors. Je vous laisse entre les mains bienveillantes de Jean-Luc.
Oh là, si je le connais cet oiseau-là. Salut Jean-Claude.
Bonjour Jean-Luc.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Motors. C'est toujours un régal de t'écouter tant la passion transparaît dans tes propos. Alors d'abord, je vais te faire parler évidemment du tracé du Mugello, qui est quand même un tracé absolument fabuleux, en plus avec l'ambiance qui y règne.
Ah, c'est clairement un des plus beaux circuits du championnat du monde. C'est déjà en Italie, avec tous les fans, tous les passionnés de moto qu'il peut y avoir en Italie. Et en plus, le tracé, ses montées, ses descentes, c'est sa vitesse de pointe, plus de 350 km/h, c'est énorme. C'est vraiment un super beau circuit.
Ah ben, c'est un très très beau théâtre, effectivement. On en vient à la grille, Arnaud l'évoquait il y a un instant. Alors, pole de Marc Marquez, 1:45.519, le record de la piste a été pulvérisé. Et puis à deux petits dixièmes seulement, on retrouve un garçon qui a été là depuis le début, hein, depuis le début des essais libres, c'est Fabio, évidemment. Non seulement on va pas l'éviter, mais écoute, c'est ahurissant, ce tout jeune pilote, ce tout jeune talent, qui a vraiment trouvé en MotoGP, on en avait parlé ensemble là, il y a quelques semaines déjà, qui a trouvé vraiment l'outil et la catégorie qui lui convient.
Ah, clairement, et en plus, pour avoir suivi des essais, moi, alors j'ai pas loupé une minute d'essai, Marquez, pour faire cette pole position, s'est servi de la vitesse de pointe de la Ducati Dovizioso juste avant la fin. Quarta a toujours roulé seul, il a fait toutes ses séances d'essais seul, c'est-à-dire qu'à une minute de la fin, il était en pole, et Marquez, grâce à la Ducati Dovizioso dans le dernier bout droit, a réussi à lui mettre de dixième. Non, Quartararo, là, c'est énorme.
Ah ben, c'est absolument énorme. La deuxième pole, donc, on l'a dit, c'était vraiment juste. Puis après, on se pourlèche déjà les babines parce que le Grand Prix suivant, le 16 juin, ce sera pendant les 24 heures du Mans. D'ailleurs, nous serons présents et avec Motors et avec RMC, bien sûr, pour couvrir les 24 heures du Mans auto. Mais il y aura le Grand Prix de Catalogne, effectivement, à Barcelone. Alors, j'en reviens à ce tracé du Mugello. Tu parlais de vitesse de pointe impressionnante. Bah oui, c'est vrai qu'à la SPI, mais c'est 350-360 km/h en MotoGP. Et je crois qu'il y a une petite bosse juste au niveau de la zone de freinage. Hein, très difficile à gérer pour les pilotes, d'ailleurs.
Bah, je pense que tout le monde se souvient de cette envolée énorme, impressionnante, qui a fait peur à tout le monde l'année dernière du pilote Ducati, qui, en regardant sa chute au ralenti, il perd même ses deux gants. Quand vous savez comment sont serrés les gants de MotoGP, dans la chute, il perd ses gants. C'est énorme. Évidemment, il y a une toute petite envolée, et à ce moment-là, s'il y a un problème technique, mécanique, comme ça a été le cas, ça fait une catastrophe. Bon, il s'en est ressorti très bien. C'est Michele Pirro, je crois.
Ouais, c'est Pirro.
Il s'en est très bien ressorti. Mais c'était énorme, la chute à revoir au ralenti et à vitesse réelle. Vous avez l'impression que c'est vrai que les gens s'amusent en disant un footballeur qui tombe et qui sort la cheville, il se plante pendant une demi-heure. Avec une chute comme ça, normalement on se relève pas. C'est énorme.
On va pas dire du mal de nos camarades, mais c'est vrai qu'à moto, c'est pour ça que j'admire autant ces pilotes moto qui roulent avec des vis, avec des poignets fracturés, avec des clavicules en carbone. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Tu parlais de Michele Pirro, c'est sa belle sortie à lui. Il est 12e hein, sur la grille de départ avec la Ducati officielle, la 3e Ducati officielle, on va dire, après celle de Danilo Petrucci qui partira 3e sur la grille, et puis celle d'Andrea Dovizioso. Hein, là, on peut dire qu'on est une équipe full Rital, là, italienne jusqu'au bout des ongles, hein, Jean-Claude.
Ah ben clairement, et puis en plus c'est un circuit où Ducati s'entraîne régulièrement, et puis comme pilote de développement, Michele Pirro, il est plutôt pas mal quand même.
Ah ben t'as raison.
Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir parmi l'équipe de développement. Après, c'est vrai qu'on parle des vitesses de pointe de Ducati, mais enfin bon, Quartararo il est deuxième aux essais, et pourtant Sayam c'est loin d'être la plus vite. Alors il y a pas que la vitesse de pointe. Hein.
Non,
faut sortir des virages pour entrer dans les virages. Honnêtement, quand je vois regarder Quartararo, j'ai l'impression qu'il est en train de chauffer ses pneus, et au chrono il est premier, deuxième.
Et c'est ça qui est impressionnant.
Voilà. Après, les Ducati vont être difficiles à battre là. Marquez, effectivement, même ce matin au warm-up, a été devant, mais il a jamais roulé seul. À chaque fois, il était en bagarre. Quartararo est pas loin. Hein. Il est cinquième au warm-up, première Yam. Hein.
Il est là.
14e Vinales, 15e Rossi quand même. Faut savoir que visiblement, il a trouvé, comme tu disais fort justement tout à l'heure, Moto3 c'était bon. Oui, ça allait, c'était pas mal. Moto 2, bon, il a gagné une ou deux courses.
Quand même, oui.
Mais là, en Moto GP, il est énorme. Il est juste énorme.
Ah ben, il explose complètement. Alors, autre question, et je sais que c'est très difficile de répondre à ça, tant qu'on n'a pas toutes les infos. Comment expliques-tu que Fabio Quartararo, donc avec sa Petronas Yamaha deuxième, Franco Morbidelli, le jeune Italien quatrième, et seulement derrière, eh bien, on trouve la Yamaha officielle de Maverick Vinales, qui est septième, et il faut en parler, évidemment. Alors là, on cherche et on descend à la 18e position pour trouver Valentino Rossi. Qu'est-ce qui se passe pour Valentino et pour les Yamaha officiels?
Alors, ouais, c'est très compliqué. Alors, je vais sûrement recevoir beaucoup de messages d'insultes concernant Rossi après ce que je vais dire là.
T'en es pas ça près. Allez, on y va.
Il faudrait pas faire la saison de trop. On dit c'est pas un pilote du samedi, c'est un pilote du dimanche. Mais quand on part 18e, on a beau être le pilote du dimanche, on finit au milieu 5e, quoi. Sauf fait de course énorme. Autrement, je vois pas comment il pourrait faire mieux. Faut pas faire la saison de trop. Je pense que maintenant c'est devenu difficile. Alors, en cours, c'est plus régulier, c'est plus sur la durée, etc. Mais ça devient plus difficile, effectivement, maintenant, d'aller chercher un chrono pour Valentino Rossi. Je pense que, voilà, il a 40 ans, 9 titres de champion du monde, c'est une rockstar, c'est une idole, il n'y a qu'à voir les tribunes au Mugello. Alors, encore une fois, je vais me faire insulter, mais est-ce qu'il serait pas temps de passer à autre chose?
Écoute, on sait qu'évidemment, il va faire la saison 2019 et la saison 2020, normalement, puisqu'il a le contrat. Moi, écoute, ce qui m'a frappé pour abonder dans ton sens, Jean-Claude, c'est le visage de Valentino, qui a terminé un excellent cinquième, dans le sillage de Marquez, de Dovizioso, de Petrucci et de Miller. Mais tu te rappelles au Grand Prix de France, sans être capable d'attaquer vraiment les Ducati. Et ça, c'était pas l'habitude de Valentino. Et puis, quand il a enlevé son casque, et comme moi, tu as dû observer son visage, il était extrêmement marqué. Ben, je crois qu'il y a un moment, sans jeu de mots avec Marquez, évidemment, mais je crois qu'il y a un moment, tu le dis, pour arriver à maintenir ce rythme et à terminer à seulement 3 secondes du vainqueur Marquez, ben Valentino, il doit puiser dans ses ultimes réserves.
Ah, c'est clair. Quand on parlait de Quartararo tout à l'heure, quand Quartararo enlève son casque après les séances d'essai, vous avez l'impression qu'il va le mettre et qu'il va partir, son casque. Donc, c'est plus du tout la même chose. C'est ça. Donc, faut pas non plus faire de Valentino Rossi un pilote d'endurance, faut pas abuser, je pense que c'est plus l'homme pour aller chercher un titre maintenant. Ouais. Quant à Vinales, il a une fragilité mentale, on le sait. Il est capable d'aller vite sur un tour et puis après en course, il se fait doubler une fois, deux fois. Il a du mal à tout récupérer. Et les deux jeunes de chez Petronas, eux, ils arrivent, ils ont tout à prouver. Donc il y a une nette différence d'agressivité.
Alors on va rappeler le classement général provisoire du championnat du monde avant cette épreuve au Mugello. C'est Marc Marquez qui est en tête après sa victoire en France et la victoire en Espagne auparavant. Et puis on rappelle sa chute évidemment aux États-Unis à Austin, 95 points. Il devance Andrea Dovizioso, 87 points. Et puis Alex Rins avec la Suzuki qui est un peu loin là. Alex Rins, il est 13e sur la grille de départ au Mugello, 75 points. On trouve ensuite Valentino aussi, on en parlait, 72 points. Puis après c'est plus loin, Danilo Petrucci, 57, Jack Miller, etc. Alors on ne peut pas ne pas parler non plus évidemment avec toi Jean-Claude. J'ose parler du chemin de croix de Johan Zarco. Alors tu vas me dire il est en bonne compagnie puisque juste devant lui, il a Jorge Lorenzo, 17e temps avec la Honda officielle. Lui aussi, il a du mal à trouver le mode d'emploi. Valentino Rossi, on vient de le dire, 18e. Et Johan, 19e avec la KTM. Et ce qui fait évidemment un petit peu mal, et là aussi, on l'adore, le pilote français, c'est que Paul Espargaro, lui est 11e avec l'autre KTM officielle.
Oui, alors j'ai écouté Johan dans ses explications. Il l'a dit relativement bien. C'est-à-dire que pour l'instant, on lui demande de courir un marathon en reculant, et on lui demande de faire les mêmes chronos que s'il courait d'une manière normale. Ouais. Et pour l'instant, il n'y arrive pas. Ça veut pas dire qu'il va pas y arriver. Je connais l'agressivité. Il a quand même été double champion du monde en moto 2. Pour l'instant, c'est
cas unique et en récidivant en plus. Deux titres d'affilée.
Oui, tout à fait. Donc c'est évidemment un bon pilote.
Un excellent pilote. Là aussi, c'est la loto qui lui convient pas.
Il va falloir qu'il trouve le système. Il va falloir qu'il travaille. Je pense que Jean-Michel Bayle à ses côtés va apporter beaucoup de choses parce que alors lui, c'était vraiment un très bon mentalement. Vraiment un très bon mentalement. Je me souviens le premier Grand Prix de Jean-Michel Bayle en 250 à Magny-Cours, alors qu'il était dernier. Il a travaillé, il a appris. Il a appris et à la fin, il a fait des poules en 500 quand même, Jean-Michel.
Tout à fait. Ah, je crois qu'on a perdu Jean-Claude Augrel.
Jean-Claude Augrel ?
Oui,
je pense que ça peut beaucoup lui apporter.
On le retrouve. On t'avait perdu une seconde. Je t'en prie, mais c'est pas ta faute. Hein. Oui. C'est la ligne qui était un peu moyenne. Oui, pour abonder dans ton sens là aussi, j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement avec Jean-Michel Bayle effectivement lors du dernier Grand Prix. Et bon, c'était tout nouveau. Il préférait pas s'exprimer. J'ai voulu le faire venir dans Motor justement en direct pour qu'il nous parle un peu de son travail auprès de Johan. Pour le moment, il préfère rester discret. Il a certainement raison et travailler avec son pilote. Ils étaient en discussion en fait depuis un an et demi. Hein, pour tout te dire et voilà. Bon, en tout cas, on va vivre un superbe Grand Prix, Jean-Claude, on s'en pourlèche les babines. Et est-ce que Fabio va déjà monter sur un podium, hein? C'est la première question qu'on peut se poser.
Ah, écoutez, honnêtement, il a le talent, hein. Il a le talent. J'espère bien sûr que ça va aller et qu'il va monter sur un podium, qu'il aura pas. Bon, il y a un sélecteur de vitesse un jour, il y a un autre jour, il a que 20 ans.
Il a 20 ans. Voilà.
Merci Jean-Claude Ogrel d'avoir été en direct sur RMC.
Merci Jean-Claude.
Avec plaisir, juste un tout petit mot sur le Moto 2. On a failli assister à une bagarre Marquez frère Valentino Rossi demi-frère, et ça m'aurait tellement fait plaisir qu'ils soient en bagarre tous les deux.
quelque chose
de fabuleux pour le MotoGP. Malheureusement, ils ont un petit écart à l'arrivée.
Oui, t'as raison, c'est vrai que c'était marrant de le souligner. Ouais.
Merci à vous d'avoir été en direct sur Motor. C'est très bon dimanche et évidemment
bon
ce Grand Prix de MotoGP du Mugello. Le départ à 14h avec donc un Français sur la deuxième position,
sur la première ligne avec Marquez d'un côté, Petrucci de l'autre.
Voilà, donc ça sera pas mal pour Fabio Quartararo qui cherchera effectivement à au moins atteindre le podium. 13h44, Motors revient dans un instant avec Radio Paddock. Christophe Lenné sera là pour nous parler du Grand Prix de France de Formule 1. On va parler notamment des animations prévues aussi pour fluidifier un peu le trafic, on va dire, et fluidifier les allées et venues des uns et des autres sur ce Grand Prix de France qui avait fait la polémique l'an passé, on s'en souvient, avec des questions d'accessibilité assez importantes. On parlera également de l'IndyCar et puis on reviendra sur les résultats donc en Moto 2 et en Moto 3 des Grands Prix du Mugello. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h. RMC, Motors, Arnaud, Jean Lecroix.
Jusqu'à 14h effectivement, Motors, il est 13h45. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ça va Jean-Luc?
Ça va formidablement bien.
On est toujours dans notre power stage hein, sur le rallye du Portugal, rallye WRC. Pour l'instant, c'est Mats Hultberg qui a réalisé le meilleur temps. Il y a encore du monde
Va venir. Les meilleurs, c'est à la fin. Hein.
Ça va venir effectivement pour cette 20e et dernière spéciale. Faut-il le rappeler, Ott Tanak toujours en tête devant le Belge Thierry Neuville, 16 secondes d'écart. Entre ces deux-là, tout de suite, c'est Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion!
Radio Paddock.
Christophe Plenet est avec nous. Salut Christophe.
Bonjour Arnaud. Bonjour le King. Bonjour à
tous. Salut Christophe.
Avec de la Formule 1, je crois, à la une de Radio Paddock aujourd'hui. Hein.
Et oui, des petites news. Alors, ça discute pas mal autour des moteurs. Hein. Jean-Luc va nous en parler un petit peu plus en longueur dans un instant. Et puis, il y a les organisateurs du Grand Prix d'Espagne également qui ont pressé le gouvernement de chercher une solution urgemment. Hein,
afin
de sauver la course de Barcelone. L'épreuve catalane est au calendrier depuis 1991, mais est en doute à partir de la saison prochaine. Le contrat courant jusqu'à cette année n'ayant pas été renouvelé. Alors, les rumeurs, Jean-Luc, autour de l'avenir du Grand Prix d'Espagne se sont accentuées suite à l'annonce, on en a parlé dans Radio Paddock, du retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier en 2020 à Zandvoort, avec une date prévue en mai, ce qui correspond habituellement à l'ouverture de la saison européenne à Barcelone. Problème en perspective?
Problème, autant le dire crûment, ça sent pas très bon pour ce Grand Prix de Catalogne, effectivement, dans la banlieue de Barcelone, dans la banlieue nord. C'est un très beau circuit qui sert également de théâtre aux essais hivernaux, on le sait, puisque les équipes y viennent deux fois quatre jours. Effectivement, on comprend pas très bien ce qui se passe. Bon, c'est un problème financier, hein, soyons clairs. De toute façon, en Formule 1, ça serait toujours avec de l'argent. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce serait très dommage, de toute façon, que le Grand Prix d'Espagne... Alors, c'est vrai que Fernando Alonso n'est plus là. C'est peut-être aussi une des raisons, j'allais dire, corollaires, même si on a Carlos Sainz Jr., mais évidemment, il n'a pas la même aura, pas le même palmarès.
Le taureau des Asturies.
Le taureau des Asturies, tout à fait. Le double champion du monde, qui est parti vers d'autres cieux et d'autres directions. On sait d'ailleurs qu'il va mettre fin à sa carrière aussi après Le Mans chez Toyota, en championnat du monde d'endurance, hein, où il a remporté, il espère remporter le titre de champion du monde également avec ses équipiers, et puis peut-être remporter les 24 heures pour une deuxième fois. Bah, pour Indianapolis, on a parlé tout à l'heure, ce sera peut-être l'an prochain ou plus tard. En tout cas, j'en reviens au Grand Prix d'Espagne. C'est vrai que c'est un peu dur de voir. Bon, moi, je suis ravi que le Grand Prix de
Est-ce qu'on peut avoir à la fois un Grand Prix d'Espagne et un Grand Prix des Pays-Bas?
Bah, Oui, moi je te réponds oui, parce que c'est une question de calendrier. Tu sais, pour le moment, il y a 21 grands prix. On dit du côté de Liberty Media, et on essaie de faire passer le message auprès des écuries, mais les écuries disent, nous on veut bien, mais faut nous payer plus. Qu'on peut aller jusqu'à 25 grands prix par saison, alors pourquoi pas? On pourrait très bien ménager. Maintenant, tu l'as dit aussi, la date envisagée pour la Hollande, c'est le mois de mai. Puis en Hollande aussi, une petite question de météo quand même, on va essayer de pas mettre ça trop en hiver malgré tout, même si c'est un circuit dans les dunes, hein, au bord de la mer du Nord. C'est un circuit qui a accueilli la Formule 1 également à une époque. Et puis évidemment, c'est la montée du Hollandais volant, on le sait très bien. Max Verstappen qui sous-tend tout ça, puisque son public pour le moment à Max, il est soit en Belgique, évidemment, pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps, toute fin du mois d'août, ou bien en Hongrie. Ils sont très nombreux également en Hongrie, toujours les supporters hollandais. Mais bon, effectivement, il y a une incertitude, et moi j'espère que l'Espagne sauvera sa peau, parce que Barcelone, c'est quand même un très bel événement, tu le rappelais, depuis quasiment une trentaine d'années.
Allez, on va passer à toute autre chose, un Grand Prix qui, lui, est bien en train de s'ancrer, justement, dans l'esprit des fans de Formule 1. C'est le Grand Prix de France qui se déroulera, on le disait, dans 3 semaines. On vous fait d'ailleurs gagner vos places, vous envoyez F1 au 7-32-16 pour un pack de 3 jours, justement, donc sur ce Grand Prix de France au Castellet. On est en direct, Jean-Luc, avec Ludovic Arnaud, directeur du divertissement et de la mobilité de ce Grand Prix de France. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, donc, pour discuter, justement, de ce Grand Prix, Jean-Luc, à trois semaines désormais, justement, de la tenue de la course.
Et oui, ça va être un événement effectivement très important pour la France, hein, dans son ensemble, évidemment pour le sud de la France. Bonjour Ludovic Arnaud, merci d'être avec nous. Et il faut bien parler de ces 3 jours. On fait gagner évidemment sur AMC des packs pour pouvoir venir sur le circuit, puisque vous êtes responsable des divertissements et des animations qui vont être nombreuses. Alors allez chez nous avec le programme qui sera chargé. Je crois que ça commence dès le jeudi même.
Oui, effectivement, ça commence dès le jeudi. Alors le jeudi, chez nous dans le sud, c'est une journée un peu spéciale. Le jeudi, le matin, c'est consacré uniquement aux scolaires. Donc on accueille 10 000 écoliers, collégiens et lycéens entre 9h et 16h sur le circuit. C'est un truc un peu spécial dans tous les Grands Prix. Et à partir de 16h, après, on ouvre pour le grand public, c'est-à-dire les spectateurs qui ont acheté leur passe 3 jours avec la classique pit and walk et puis la séance dédicace avec les pilotes. Ça, c'est le jeudi. Et après, on rentre dans le dur vendredi, samedi, dimanche, où là, entre 7h et 22h, on a triplé les animations sur le circuit.
Ah oui, carrément.
Vous allez avoir un musée qui retrace les 60 ans du Grand Prix de France, en partenariat avec le Musée National du Sport. Vous allez avoir une zone innovation où là, vous allez avoir un concours de sport électronique, vous allez avoir un cinéma dynamique. Tout ça, bien sûr, ce sont des animations gratuites pour les spectateurs. On va continuer à faire grandir le village du sud de la France qu'on avait créé l'année dernière, où il y a une exposition de tous les atouts du territoire, de la dégustation viticole, de la dégustation gastronomique. Voilà, un gros sujet là-dessus. Et enfin, les concerts, où cette année, on a fait 3 concerts. Richard Orlinski le vendredi soir, Martin Solveig le dimanche et Bob Sinclair le samedi. Enfin, une grosse programmation musicale aussi pour venir clôturer chaque jour.
Ah ben ça va faire mal, effectivement, ça va faire du bruit, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est bien parce que sur le plateau ça dérange vraiment personne. Alors comme je sais que vous occupez également de mobilité, bon on en a déjà parlé sur cette antenne, hein, il y a 2 semaines de mémoire, mais on a bien travaillé aussi ces histoires d'accès, hein, on peut le redire, je crois qu'il faut insister là-dessus puisque ça avait été un des problèmes l'an dernier.
Ouais, c'est une certitude, on a pris vraiment en compte les retours de nos spectateurs l'année dernière et on a complètement repensé le plan mobilité en essayant de diminuer par 2 le nombre de véhicules qui accèdent au plateau. On a mis en place des navettes relais qui partent depuis la Ciotat où vous garez directement en sortie d'autoroute, prenez le bus et en 35 minutes vous êtes au circuit et le soir en 35 minutes vous êtes à l'autoroute, ce qui est une très très grande nouveauté. On a revu intégralement la gestion de nos zones de stationnement aux alentours du circuit, on a créé un parking moto pour augmenter la part modale, une voie spéciale dédiée au covoiturage. Enfin, c'est vrai que tout a été repensé pour donner aux spectateurs la meilleure expérience depuis chez lui jusqu'au retour chez lui, quoi. Un véritable toboggan où c'est fluide et où ce n'est que du bonheur. C'est vraiment le combat qu'on mène. Et les animations en sont une petite partie, puisqu'on espère garder du public entre 7h et 22h sur le circuit pour étaler au maximum les départs et les arrivées, afin que le trafic sur la route soit le plus fluide possible.
Bah oui, ça c'est. Et puis je me permets de le redire, je l'ai dit la semaine dernière, mais que tout le monde ait les bonnes consignes. Je parle évidemment des forces de gendarmerie que je n'incrimine pas, mais c'est vrai que l'an dernier on y a été confronté, hein, comme tout le monde, il n'y avait pas de raison. Ils n'avaient pas toujours les bonnes consignes. Je sais que ce sera fait, hein, on est bien d'accord.
Ouais, c'est une première. Ouais. Ça a été une première pour tout le monde l'année dernière, et c'est vrai que cette année on a travaillé énormément avec la gendarmerie. Ça fait un an qu'on se voit quasiment une fois par semaine pour mettre en place ce plan pour que tout fonctionne. Donc je pense que cette année, ça va bien se passer.
Un petit mot aussi, puisque on sort du Grand Prix de France Moto, qui se déroule au Mans, comme vous le savez, chaque année, qui est organisé merveilleusement par Claude Michy. Je vais pas dire que c'est un idéal, mais si quand même, quand on traite bien le public, comme vous allez le faire, eh bien ce public, il revient, et puis surtout, il est très heureux de ce qu'il a vécu pendant ces 3 jours.
Ouais, c'est l'objectif. Montrer aux spectateurs de l'année dernière que cette année, on est à 100% correct, et que le dernier point noir de l'année dernière, on l'efface. et puis derrière continuer à construire cette base de fans de sport automobile et de Formule 1 pour faire revivre en France ce sport qui nous a quand même manqué pendant près d'une dizaine d'années.
Ah bah c'est clair qu'on était sevrés là et le mot est faible. Allez, on va quand même parler juste un mot. Il y a quand même un Grand Prix, hein, avec des séances d'essai. Et puis il va se passer des choses sur la piste, hein, c'est clair.
Ouais, il va se passer des choses sur la piste, effectivement. F1, F2, GP3, ça c'est la classique pour Grand Prix de France. Puis une petite nouveauté cette année, on a une Clio Cup.
Ah bah oui.
À mon avis, va intéresser beaucoup le public parce que
ça va animer, oui.
C'est du Made in France, ça va se toucher un peu la portière. Enfin, ça va être très sympa. Et je crois entendre dire que certains pilotes de la Clio Cup seront peut-être connus. Donc, ça va être à mon avis une belle séance de course support.
Bon, bah génial. Et ben, on se réjouit de se retrouver tous ensemble 21, 22, 23 juin sur le circuit du Paul Ricard sur le plateau du Castellet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ludovic Arnaud.
Merci à vous. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.
Merci. Bonne journée à vous. La suite de Radio Paddock, la suite et la fin. Christophe, avec tu voulais quoi ? Parler d'IndyCar, parler de Moto 2, de Moto 3. Je te laisse le choix.
C'est up to you. Allez, on démarre par le Grand Prix de Detroit. C'est de l'IndyCar avec Joseph Newgarden, hein, qui s'impose devant Alexander Rossi et Takuma Sato. Coup double pour lui puisqu'il reprend les commandes du championnat IndyCar. Et puis bravo Simon Pagenaud, hein, qui prend la sixième position, non sans avoir réalisé une belle remontée depuis la 13e place, avec une course décrite comme fun par le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Et Seb Bourdais, lui, prend la 11e place, Jean-Luc.
Oui, aux essais, ça avait été un peu moins bien pour les deux Français. Seb s'était lancé de la 16e position, comme tu le dis, il est remonté 11e. Alors, faut savoir que Detroit, hein, c'est un circuit que je connais bien, très très particulier. C'est pas un vrai circuit en ville, c'est sur une île. Donc c'est une île qui est Detroit, tu sais, c'est une ville qui a vécu des grandes heures d'automobile et puis des heures terribles après, malheureusement. Mais ça, c'est un endroit qui est très particulier au milieu du fleuve, et malheureusement, il y a une tornade.
Le Michigan. Hein,
voilà, au milieu du Michigan, et la course a été retardée d'une heure, hein, je crois, ou du plus d'une heure. On a réduit d'ailleurs la durée, ça devait être 75 tours et ça a été 75 minutes. Et puis il y a eu quelques cartons, notamment pour Scott Dixon, hein, on parlait, le néo-zélandais, qui a dit, alors maintenant, c'est maximum attaque, faut que je gagne les 10 courses qui restent pour me remettre dans le coup au championnat. Donc je pense qu'effectivement, bah, comme d'habitude, puis il y a une deuxième course, hein, aujourd'hui, qui va se dérouler un petit peu plus tard.
Exactement.
Espérons que la météo sera effectivement plus clémente. En tout cas, l'IndyCar, ça ne s'arrête jamais, hein, parce que à peine une semaine, et même moins d'une semaine, après les 500 miles, crac, les pilotes embrayent tout de suite sur une autre épreuve.
Un petit mot de moto,
si Mugello, tiens.
Je t'en prie. Allez, donc sur le circuit du Mugello, c'est l'Italien Tony Arbolino qui a dominé la course en Moto 3 devant son compatriote Lorenzo Dalla Porta et l'Espagnol Romé Macia. Et puis en Moto 2, c'est l'Espagnol Alex Marquez, hein, le frère de Marc, qui s'est nettement imposé aujourd'hui devant Luca Marini, qui n'est autre que le demi-frère de Valentino Rossi et Thomas Luthi. C'est vraiment des histoires de famille en moto aujourd'hui.
Ah, ben le papa Rossi, moi je l'ai connu.
Il y a des bons dans la famille.
Graziano Rossi, c'était un allumé de première. Lui, je peux te dire qu'à l'époque, c'était des 500 cm3. C'était fin des années 70, début des années 80.
C'est maman Rossi qui devait être content.
Ah, je peux te dire qu'il envoyait du lourd, c'est peu de le dire. Sur la piste et en dehors, effectivement, Valentino a de quoi tenir. Et puis, ses demi-frères aussi. Donc, c'est une famille dédiée et tournée vers la moto, effectivement. C'est vrai que c'est marrant, ce que disait Jean-Claude Gall il y a un instant, effectivement, d'avoir peut-être Alex Marquez, le frère, contre Rossi, l'autre, le demi-frère.
On peut espérer voir Alex Marquez monter en MotoGP et courir contre son frère.
Écoute, on peut l'espérer parce que s'il continue à aligner les belles performances, là, ça fait deux victoires de rang. Il se remet dans le coup au championnat. Bon, il était un petit peu loin jusque là. Il marche un peu au moral. On a l'impression aussi Alex Marquez, mais ben, why not? Ce serait génial d'avoir deux frères effectivement au plus haut niveau en MotoGP. Ça pourrait être formidable. C'est vrai. Alors, est-ce que ce serait au sein de la même marque ou d'une marque concurrente? Va savoir.
Et on verra déjà ce que ça donne tout à l'heure le MotoGP également avec donc Fabio Quartararo, on le rappelle, qui s'élancera de la deuxième position sur la grille de départ derrière Marc Marquez. Merci Christophe Péné, on te retrouve je crois tout au long de l'après-midi.
Exactement, dans l'intégral sport. Merci
exactement,
à toi.
Merci beaucoup sport, Arnaud.
Instant, merci Jean-Luc.
Et maintenant au MotoGP direct.
Et voilà, au MotoGP. Ouais. Et Christophe Nessieux arrive là dans quelques instants pour l'intégral sport jusqu'à 10h.
RMC Motors.